Chapitre 30. Coopération, réciprocité, pardon. Journal d'Alina Masson, décembre 2004. D'aussi loin que je me souvienne, Myrtille a toujours été là. J'habitais rue du Puchot, un appartement au sixième étage, avec vue sur la Seine, le pont Guinemer et le chemin de halage en face, où l'on n'allait jamais jouer. Myrtille habitait Passage Tabouel, une petite maison de ville avec un petit jardin, la rue juste en face. Je l'ai toujours appelée Mimi. Moi, c'était Lina. Mimi, Lina. Les deux inséparables. On avait calculé qu'on s'était croisés pour la première fois à l'hôpital des Feugrais en 1983. J'étais sorti de la maternité le 17 décembre et Mimi y était née le 15. Mais sa maman, Louise, aimait nous raconter que nous étions vraiment devenues copines à 13 mois au parc de jeux du Puchot, à descendre toutes les deux le toboggan en file indienne. J'ai souvent regardé ces vieilles photos de nous deux, avec nos moufles, nos écharpes et nos bonnets, depuis que Mimi n'est plus là. On s'était retrouvés dans la même classe de maternelle. Normal, j'allais souvent jouer chez Mimi, avec elle et son petit chien farceur, Buffo. Je n'ai su que bien plus tard que Charles l'avait appelé ainsi à cause d'un clown célèbre. On le torturait, on le promenait en poussette, on lui enfilait des bavoirs, on lui donnait des petits pots à manger. Jamais Mimi ne venait chez moi. J'avais un peu honte. Et puis, je n'avais pas de chien. On était comme deux jumelles. C'est ce que l'on disait de nous à la primaire Alphonse Daudet, même si on ne se ressemblait pas physiquement. Louise et Charles travaillaient beaucoup, surtout le mercredi, le samedi et les vacances. Louise avait son école de danse. Charles recevait des groupes au musée. Des fois, on traînait dans les rues d'Elbeuf. Le plus souvent, on allait chez la grand-mère de Mimi, Janine. Elle habitait route des Roches à Orival, dans une maison creusée dans la falaise de la Seine, avec des grottes dans le jardin, où l'on n'avait pas le droit d'aller à cause des éboulements. Janine nous faisait rire, et on ne lui obéissait pas trop. On l'avait surnommée « grand-mère ninja ». Janine, mais en verlan, c'est Mimi qui avait trouvé. Mimi aimait beaucoup jouer avec les mots. Parfois, on emmenait Buffo chez elle. On le tenait en laisse le long du boulevard de la plage. Le boulevard s'appelle toujours comme ça, je crois. Mais il n'y a pas plus de plage aujourd'hui qu'hier sur le bord de la Seine. À 8 ans, on a fait notre première colo ensemble, à Bois-Plage en Ré, dans les Pins. Frédéric était déjà animateur, et Mimi le trouvait trop beau avec ses cheveux longs, sa guitare et ses bras musclés qui la faisaient voler au-dessus de sa tête. Et c'était Louise et Charles qui dirigeaient le centre. Les autres gamins, qui venaient de tous les quartiers d'Elbeuf, faisaient la misère à Mimi. C'était la chouchoute, la fille des Dirlots, peut-être la seule dont les deux parents avaient un travail. Avec Mimi, on se serrait les coudes. Mimi, Lina, pour toujours. À la colo des bois, comme on l'appelait, Mimi pleurait souvent et ne voulait rien dire à ses parents. On dormait tous ensemble dans un grand dortoir. La nuit, Mimi faisait parfois pipi au lit. Elle disait pour rire que c'est pour cela que la colo s'appelait le drap d'or, à cause des draps pisseux. Moi, je l'aidais. On s'arrangeait pour être toutes les deux seules dans le dortoir et on échangeait les matelas. Je lui prêtais le mien et quand un de nos deux matelas sentait trop l'urine, on l'échangeait avec celui de l'animateur de garde dans le couloir. Personne n'a jamais rien su. Notre secret. Elle m'aurait tué si je l'avais raconté. Je n'ai jamais rien dit. C'est elle qui est morte. Après le collège, on se retrouvait aux ateliers de la MJC. Pour retrouver Fred aussi, bien entendu. Mimi faisait de la danse et du théâtre. Moi, juste du cirque. J'étais assez bonne pour tous les trucs d'équilibre. La boule, le tonneau, le rollabola. Mais Mimi, elle, c'était autre chose. L'harmonie parfaite, la grâce. De temps en temps, Louise ouvrait le cirque-théâtre rien que pour nous et on marchait sur la scène ronde en rêvant. Une fois, on avait décroché du vestiaire une vieille affiche, un trapéziste en juste au corps qui passait à travers un cerceau en flammes. Il s'appelait Rustam Trifon. Il venait du cirque de Moldavie. Il était beau comme un dieu, blond avec des yeux d'acier. On se prêtait le poster une semaine sur deux. Ça nous faisait délirer d'avoir Rustam Trifon comme idole. C'était quand même autre chose que Philippe Nicolique des 2B3. On chanta à fond « What's up » des Four Non Blondes, en rêvant de partir sur les chemins de Transnistrie. Et c'est là qu'habitait Rustam. On a fait notre première colo au Bois-Plage en Ré, comme animatrice en 2001. Frédéric était directeur et Mimi le trouvait toujours aussi beau avec ses cheveux coupés très courts et son ukulélé. C'était toujours les mêmes gamins des quartiers d'Elbeuf, ou leurs cousins, leurs petits frères, leurs enfants peut-être déjà. Avec Mimi, On se tapait des fous rires lorsqu'on les levait la nuit pour qu'ils aillent faire pipi tout en vérifiant si leur matelas ou leur pyjama était sec. Avec la paye, on s'est offert les vieilles charrues l'année suivante et on y a carrément vu les Blues Brothers. Presque à les toucher, on draguait les bénévoles bretons à croquer. Mimi était sortie un soir avec celui qui, selon elle, devait être le plus gentil de tous, celui qui s'occupait de nettoyer les chiottes. Mimi était comme ça. Quand on est revenu, après 15 jours dans le Finistère, Buffo était mort. Le jour de la Sainte-Anne, il s'était juste endormi entre les rosiers un après-midi où il faisait très chaud. Charles l'a enterré là. Il a creusé un trou sous lui sans même déplacer son corps. Depuis, chaque fois que je suis repassé chez Charles et Louise, un Pastabuel, jamais je n'ai pu regarder ses fleurs sans repenser à Buffo. Je crois qu'il aurait aimé se réincarner en rose. En 2003, pour la première fois, la colo a quitté l'île de Ré pour la Normandie, la faute aux subventions qui diminuaient. Elle s'est mise à accueillir plus d'ados aussi. Un soir de septembre, Mimi a trouvé un petit chiot perdu derrière le McDo de Côtebec-les-Elbeuf. Elle l'a appelé Ronald. C'était un peu idiot comme nom, mais c'était le premier nom de clown qui lui était venu. Elle l'a ramené dans ses bras à Charles et Louise. C'était aussi une façon de faire comprendre à ses parents qu'elle serait moins là désormais. Elle était sortie avec Frédéric pendant la colo. Il y avait là une sorte d'évidence, même s'il avait 19 ans de plus qu'elle. On s'y attendait tous, à vrai dire. On trouvait même qu'ils avaient un peu lambiné à se trouver. Au printemps suivant, Mimi m'a demandé si je voulais être témoin à son mariage. Elle voulait aller vite. Mariage programmé le 2 octobre à Orival, dans l'église du bord de Seine, encastrée dans la falaise, aussi solide que son amour, disait-elle. Mimi était plus romantique que moi, plus catholique aussi, plus robe blanche, plus poème, plus prince charmant. J'ai dit oui. J'ai dit aussi que j'allais lui en faire baver avant, que j'allais imaginer les plans les plus méga dingues pour son enterrement de vie de jeune fille. En vrai, j'avais monté un plan pour que l'on parte toutes les deux après le camp d'Isigny une semaine à l'autre bout de l'Europe, sac à dos et autostop, peut-être jusqu'en Transnistrie. Mimi m'a quitté le 26 août 2004, sans même me dire au revoir. C'était son jour de congé. Elle n'a pas été plus loin que le chemin des grandes carrières, à 800 mètres de la base d'Isigny. J'ai été une des premières, encadrée par 2 gendarmes, à découvrir son cou bleu, son corps dénudé sous sa robe déchirée, ses yeux grands ouverts vers le ciel. C'est moi qui ai prévenu Charles et Louise. C'est eux qui ont prévenu Frédéric. J'ai repensé à chaque minute de ma vie avant de les appeler, à toute vitesse. Le parc de jeux du Puchot, Buffo, le cirque, Rustam Trifon, les grottes de Mamie Ninja. Je n'arrivais pas à imaginer qu'il me faudrait supporter une vie entière sans Mimi. Avec Charles, Louise et Frédéric, nous voulions connaître la vérité. Pourtant, cela ne colla jamais vraiment avec Carmen Avril et cette association contre l'oubli, Fil Rouge. Ce fut quand même l'occasion de discuter longuement, souvent, avec Océane, la sœur de Morgane. Nous avions presque le même âge, nous avions toutes les deux perdu l'être le plus cher au monde, assassiné par le même individu, jumelle de douleur. Pourtant, nous ne nous comprenions pas, pas vraiment. Comme sa mère, Océane carburait à la haine. Océane rêvait de retrouver l'assassin de sa sœur pour le tuer de ses propres mains. Moi, je crois que j'aurais été capable d'aller le visiter chaque jour en prison pour lui raconter chaque détail de la vie de Mimi, pour lui faire comprendre qui elle était, pour lui faire regretter son geste, pour qu'il l'aime, pour qu'il implore son pardon. Charles et Louise comprirent qu'on ne découvrirait jamais la vérité sur la mort de leur fille unique lorsque le suspect numéro 1, Olivier Roy, fut identifié, puis innocenté. Le commandant Léo Bastinet s'en était à peine caché, affaire classée, sauf imprévu. Ils quittèrent l'association Fil Rouge en 2005, c'était leur choix, personnel. Ils insistèrent beaucoup pour que Frédéric et moi continuions de nous y investir. N'oubliez jamais. Nous n'avions pas compris pourquoi alors. Louise patienta jusqu'en décembre 2007, jusqu'à l'inauguration du Cirque Théâtre d'Elbeuf, après presque 10 ans de travaux de rénovation. Charles et Louise invitèrent pour l'occasion quelques grands artistes internationaux. Rustam Trifon était présent. Il avait 53 ans. Son affiche était encore punaisée au-dessus du lit de Mimi. Il accepta de se rendre un Pastabuel. Il monta jusqu'à sa chambre, grimpant l'escalier avec la grâce d'un ange. Puis je lui ai demandé de cueillir une rose dans le jardin et il est allé la poser sur la tombe de Mimi, au cimetière Saint-Étienne. Il avait l'air ému. C'était un moment beau et triste. Le soir, nous sommes restés tous les trois dans l'arène, Charles, Louise et moi. J'ai juste dit, en regardant l'immense rideau de velours pourpre sous les rangées de spots, Mimi aurait adoré. Charles et Louise n'ont rien répondu. Peut-être pensaient-ils que Mimi voyait tout de là-haut, entendait, captait les mêmes émotions. Peut-être pas. Depuis la mort de Mimi, il s'était un peu perdu de vue avec Dieu. On s'est quitté ainsi. J'ai regretté sur le moment de ne pas leur avoir parlé de mes doutes. Le lendemain, Charles et Louise sont partis sur l'île de Ré. Les locaux de la colo de Bois-Plage en Ré avaient été vendus depuis près de 10 ans pour en faire un camping, un de plus. Un truc de luxe avec piscine et cours de tennis où aucun gamin d'Elbeuf n'irait jamais mettre les pieds. Vers 18h50, juste avant la fermeture, ils sont montés jusqu'en haut du phare des baleines. 57 mètres. 257 marches. Un vent froid soufflait de l'Atlantique. Ils étaient seuls. Main dans la main, ils ont escaladé la balustrade de béton et ils se sont jetés dans le vide. Depuis, j'ai souvent rendu visite à grand-mère Ninja, route des Roches. Elle était la seule survivante de ma vraie famille. Nous avons beaucoup discuté. Au bout du compte, j'ai fini par lui avouer ce que j'avais sur le cœur. Elle m'a rassuré. J'avais bien fait de ne rien dire à Charles et Louise. Mieux valait qu'ils soient partis ainsi, persuadés que Mimi avait été assassinée par hasard, sans personne d'autre à accuser que la fatalité. Mais elle m'a aussi fait comprendre que ce doute allait me ronger moi aussi, qu'il fallait que je m'en débarrasse. Comment, Jeannine? Comment? En racontant tout aux policiers, ma jolie, même si cela doit rouvrir les pires cicatrices? J'ai alors repensé à ce poème de Mimi, les derniers vers. Je construirai autour de nous une Bastille et je la défendrai. M2O. Mimi n'aurait jamais pu écrire cela. Mimi me manquait tant.